Mandrin. Deuxième partie, chapitre 6. Où Pistolet semble reprendre l'avantage. En proie à une véritable démence, Jeanne d'Estenave s'était enfuie à travers la campagne. Elle arriva ainsi jusqu'au bord d'un torrent dont elle longea la berge, comme si elle voulait s'enfoncer plus avant dans cette montagne, afin d'y trouver, parmi ces rocs ou au fond de quelques grottes, l'asile de son agonie, le tombeau de sa souffrance. Lorsqu'il lui sembla qu'on l'appelait. « Tiennot ! Tiennot ! » Sans doute n'était-ce qu'une hallucination, et elle ne ralentit pas sa course. Mais la voix s'élevait de nouveau, nette, impérieuse. « Tiennot ! Tiennot ! » Jeanne d'Estenave s'arrêta. Un vague espoir venait de mettre en elle un léger rayonnement. Peut-être était-ce Mandrin qui, pris de remords, la faisait rechercher par un de ses camarades. Mais ce ne fut qu'un éclair. À 50 pas d'elle, à travers les branches écartées d'un hallier touffu, Pistolet venait de lui apparaître. « Où courez-vous donc ainsi, ma belle ? » lançait-il d'un ton railleur. La voix de l'exempt, en lui causant une déception amère, aviva encore sa blessure et alluma en elle le désir brûlant d'une implacable vengeance. Et, toute pantelante de l'outrage dont l'avait accablé celui qu'elle adorait, elle cria à l'exempt « Mandrin m'a chassé. Maintenant, je vais tout dire. » À l'expression de joie mauvaise qui se refléta sur les traits du policier, une révolte imprévue la galvanisa, lui restituant d'un seul coup, avec toute la noblesse de sa conscience, le sentiment de son devoir. « Tu vois bien, triomphait l'homme noir, que c'était moi qui avais raison. » Et, la prenant par le bras, il lui souffla. « Eh bien, parle donc !» À sa grande stupeur, Jeanne d'Estenave s'arracha à son étreinte, et, avant qu'il ait pu la ressaisir, elle se précipitait dans le torrent. Sans hésiter, Pistolet s'y jeta à sa suite. Entraînée par un rapide courant, la malheureuse avait été presque immédiatement projetée contre un rocher qui se dressait au milieu de l'eau. Étourdie par le choc violent qu'elle avait ressenti à la tête, elle s'était évanouie et avait coulé à pic. En quelques brasses hardies, l'exempt la ramena à la surface et regagna la rive sur laquelle il déposa la malheureuse, lui prodiguant aussitôt les premiers soins. Comme elle ne revenait pas à elle, il l'emporta vers une chaumière. Une paysanne filait sa quenouille sur le pas de sa porte. À la vue de cet homme ruisselant d'eau et qui semblait transporter un cadavre, elle se leva, saisie de peur et de pitié. Pistolet aussitôt lui expliquait. « Cette femme a voulu se noyer. J'ai pu la retirer du torrent. Je crois qu'elle respire encore. Voulez-vous m'aider à la sauver tout à fait ?»« Oh, mais tout de suite, mon bon monsieur !» accepta la paysanne. Après avoir fait pénétrer sous son toit l'exempt, qui déposa sur un fauteuil de campagne Jeanne d'Estenave toujours évanouie, la paysanne proposait « Je vais lui enlever ses vêtements, lui en donner d'autres à moi, et puis nous la coucherons et nous la soignerons de notre mieux. C'est cela, ma brave femme. Périne ! Périne ! » appelait par une fenêtre la paysanne. « Viens donc me donner un coup de main !» Une fille solide, au teint clair, qui bêchait dans un jardinet voisin, lâcha ses outils et s'en fut rejoindre sa mère. 10 minutes après, Jeanne d'Estenave, toujours sans connaissance, était étendue dans un lit très chaud, au drap bien blanc. L'exempt constata qu'elle portait au front une blessure, par laquelle le sang s'échappait lentement, mais qui ne semblait pas grave. Il la bassina lui-même avec de l'eau bouillie, puis, à l'aide d'une bande de toile, il improvisa un premier pansement. « Si on allait chercher le barbier du village, » proposait la fermière. « Il est très savant et c'est toujours lui qui vient ici quand il y a du monde malade. »«
C'est inutile, » déclarait Pistolet. « Je préfère emmener cette femme à la ville où elle recevra tous les soins que nécessite son état. »«
Avez-vous une charrette ?»«
Oui, mon bon monsieur. »«
Pouvez-vous me conduire tout de suite à Grenoble ? »
C'est pas de refus.
Pouvez-vous également me prêter un matelas?
Bien sûr.
Une couverture de laine?
Deux, si vous voulez.
Je vous remercie.
Mais vous, monsieur, vous êtes tout mouillé? Vous allez attraper du mal si vous restez comme ça.
Je vais vous prêter des hardes à mon homme.
Pendant ce temps-là, on fera sécher les vôtres devant le feu.
J'accepte, mais vraiment, vous êtes tout à fait obligeante.
Entre bonnes gens, faut-il pas bien céder?
Perrine, va chercher notre mule, la grise, qui est dans le précotard.
Tu lui donneras un bon picotin, tu l'attelleras et tu conduiras monsieur jusqu'à Grenoble.
Et tirant d'une armoire une chemise en toile écrue et une culotte, elle les remit à Pistolet en lui disant
« Allez-vous changer dans le cellier ?»
Puis elle jeta dans l'âtre un fagot qui, bientôt, s'embrasa en pétillant. À ce moment, Jeanne d'Estenave parut sortir de sa torpeur. Quelques plaintes s'échappèrent de ses lèvres. La paysanne s'en fut vers elle, contemplant avec une compassion toute maternelle son beau visage qui portait l'empreinte de son indicible douleur. Mais ses paupières demeuraient closes. On eût dit que la peur de revoir la lumière, de se retrouver en face de l'existence, de la réalité, les empêchait de se rouvrir. Et la campagnarde, si rude d'aspect, mais si tendre de cœur, murmura en joignant les mains
« Pour qu'une jeunesse comme ça ait voulu se détruire, faut-il, mon Dieu, qu'elle ait eu de la misère ?»
Ce matin-là, le fermier général bourré d'Érigny s'était levé avec l'humeur exécrable d'un homme à la fois dévoré par une âpre jalousie et énervé par l'approche de la bataille. Assoiffé d'un désir d'action immédiate, mais comprenant fort bien qu'il ne disposait ni des forces ni des ressources suffisantes pour entreprendre contre Mandrin une lutte victorieuse, il rongeait son frein avec d'autant plus d'impatience que, blessé dans son amour et atteint dans son orgueil, il prévoyait que sa vengeance serait longue et difficile à atteindre. Arpentant à grands pas son parc, il enrageait littéralement d'être obligé de sursoir à un pareil projet, lorsque, au détour d'une allée, il se trouva brusquement en face de Pistolet. À la vue de l'exempt, il eut un sursaut de mauvais augure.
« Vous, ici ? »
s'écria-t-il. « Je croyais pourtant vous avoir défendu de reparaître en ma présence. »«
C'est exact, monsieur le fermier général, » répliquait l'homme noir, en s'inclinant avec une politesse dénuée cette fois de toute obséquiosité.
Et il ajouta, avec un accent de déférence nuancé cependant d'une légère ironie,
« Soyez persuadé, monsieur le fermier général, que je me fusse bien gardé d'enfreindre vos ordres, si des événements aussi intéressants qu'imprévus ne m'avaient imposé le devoir pressant de vous désobéir. »«
Qu'est-ce à dire ? »
interrogeait Bourré, quelque peu troublé par ce mystérieux préambule. Aussitôt, l'exempt Trollon révélait, avec une modestie savamment calculée,
« J'ai réussi à pénétrer dans l'un des repères de Mandrin. »«
Au château de Rochefort ? »
s'exclama le financier, de plus en plus intrigué.
« Non, monsieur le fermier général, au château de Bon Repos. »«
L'ancienne résidence du marquis de Montferrat ?»«
Aujourd'hui propriété de monsieur de Voltaire. »«
Palsambleu ! Ce bandit aurait-il joué à ce méchant pamphlétaire le tour de s'emparer de son domaine ?»
« Non, monsieur le fermier général, c'est monsieur de Voltaire qui lui en a fait cadeau.
Cela me surprend peu de la part de ce méchant esprit qui n'a cessé de nous poursuivre de ses railleries et de ses attaques.
Mais continuez, car vous avez dû surprendre là-bas d'étranges choses.
Plus étranges que vous ne pouvez le soupçonner.
Parlez vite.
Madame, votre épouse a déjà quitté Mandrin. »
Et elle n'aurait donc pas suivi de son plein gré ce misérable ?
Quitte à vous mécontenter fort, monsieur le fermier général, je suis obligé de vous déclarer qu'il n'en est rien, bien au contraire. Si madame Bourré d'Érigny est partie subrepticement du château, ce n'était point, hélas, pour réintégrer le domicile conjugal, mais pour courir au contraire jusqu'à Fontainebleau, demander au roi Louis XV la grâce de Mandrin.
Oh, mille diables! Nous allons bien voir.
Attendez, monsieur le fermier général, je n'ai point terminé. J'ai d'autres nouvelles à vous donner. Thiénot, le berger...
Thiénot?
Oui, ou plutôt, cet Arlequine que Mandrin avait enlevé à ce nigaud de Cornebise est retombé dans mes mains.
Je vous épargne les détails de cette intéressante capture. Je me contente de vous dire qu'à l'heure actuelle, cette femme est enfermée à la prison de Grenoble, que je lui ai rendu ce matin une première visite, qu'elle s'est, suivant son habitude, renfermée dans un profond mutisme, mais que je ne désespère pas cependant de lui faire entendre raison. Ceci d'ailleurs n'a plus que peu d'importance, puisque je suis à même de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans le château de Bon Repos, par un souterrain dont j'ai découvert l'entrée secrète. Et j'ose espérer qu'en raison de ce nouvel avantage que je viens d'acquérir, ainsi que d'autres nouvelles que je vous apporte, vous daignerez, monsieur le fermier général, me rendre un peu de votre estime et beaucoup de votre confiance. » Bourré d'Érigny demeura un instant pensif. Puis il reprit « Pouvez-vous me dire exactement quand ma femme est partie pour Fontainebleau ?»«
Parfaitement, monsieur le fermier général. Madame Bourré d'Érigny a pris avant-hier matin la diligence à Chambéry. »
« Vous dites avant-hier matin ?»«
Oui, monsieur le fermier général.
Elle a déjà sur moi plus de 50 heures d'avance. Il est donc inutile de courir à sa poursuite. En attendant, je vous invite à garder pour vous seul le secret de cette nouvelle escapade, à laquelle, croyez-le bien, je saurai donner la suite qui me plaira. Quant à Mandrin, nous attendrons pour l'attaquer les troupes que monsieur le lieutenant de police ne peut manquer de nous envoyer. Cependant, puisque vous avez été assez habile pour découvrir le moyen de pénétrer au château de Bon Repos, continuez à épier les agissements de ce bandit de façon que nous puissions, dès à présent, préparer utilement notre plan de campagne.
C'est entendu, monsieur le fermier général. Il ne me reste plus qu'à vous affirmer combien je suis heureux d'avoir pu vous prouver que j'étais encore capable de vous rendre quelques menus services et combien je suis flatté d'avoir reconquis vos bonnes grâces. » Et après s'être incliné devant Bourré d'Érigny, Pistolet tourna les talons. Alors, s'abandonnant à la colère que lui inspirait la pensée de Nicole courant les grandes routes au profit de Mandrin, il grinça.
« Ah, tu t'es joué de moi, mais tu ne perdras rien pour attendre. Et si l'influence de la favorite est assez grande pour m'empêcher d'obtenir du roi une lettre de cachet, grâce à laquelle je pourrais enfermer cette gueuse dans une prison d'État, il n'est pas de puissance qui m'empêchera de la claquemurer dans un couvent où elle aura le temps de réfléchir sur sa folie et de pleurer sur ses fautes. »